Binti Minoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguerre.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Binti Minoudi, une émission un peu particulière aujourd'hui avec comme invité non pas une femme ou un homme politique mais un syndicaliste, Jean-Pierre Battestini, secrétaire départemental de la CGT de Haute-Corse. Jean-Pierre Battestini, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation en pleine agitation sociale à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement. La CGT est en première ligne, mais si nous vous recevons aujourd'hui, c'est également parce que après 40 années de syndicalisme, vous raccrochez les gants à la fin de l'année. Ce combat contre la réforme des retraites, c'est en quelque sorte pour vous la lutte finale. Nous parlerons donc dans une deuxième partie de l'évolution du syndicalisme depuis le début des années 80, mais avant la mobilisation contre la réforme des retraites, 1 million de personnes ont défilé dans les rues jeudi dernier pour dire non à ce projet. On écoute ce que déclarait le Premier ministre Édouard Philippe quelques minutes, quelques heures après, et puis vous réagissez.
Je le dis tranquillement, la mise en place d'un système universel de retraite implique la disparition des régimes spéciaux. Ma logique n'est pas et ma logique ne sera jamais celle de la confrontation. Il ne serait pas raisonnable, pas acceptable, pas juste de changer les règles en cours de partie. Et je suis persuadé qu'avec les organisations syndicales, nous trouverons le bon point d'équilibre.
Binti Minoudi, Patrick Vinciguerre.
Avec Jean-Pierre Battestini, leader de la CGT de Haute-Corse, une nouvelle journée de mobilisation a lieu demain. Jean-Pierre Battestini, à la veille des annonces du Premier ministre, est-ce qu'un point d'équilibre est possible pour reprendre l'expression du chef du gouvernement ?
Oui, un point d'équilibre est possible. Il suffit que le gouvernement écoute sa population, écoute les salariés et qu'il retire son projet.
Et quand... Ça, c'est pas un point d'équilibre.
Ah ben si.
Ça, c'est tout ou rien. Quand c'est ce qu'a déclaré ce week-end d'ailleurs Philippe Martinez. Hein.
Non, non.
On veut le retrait pur et simple.
Mais oui, ce n'est pas tout ou rien. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu 1 500 000 personnes dans la rue et malgré les difficultés de transport, on a quand même une majorité de Français qui soutiennent le mouvement. Une petite minorité, à peine 20%, qui fait confiance au gouvernement pour faire une réforme des retraites, alors qu'une majorité souhaite une réforme des retraites. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement, s'il est sage, s'il est correct, il devrait dire, bon, effectivement, ma réforme, on voit bien qu'elle suscite de l'inquiétude, et pour cause, hein, tout le monde serait perdant. Donc, mettons-nous autour de la table, voyons quel financement on peut mettre sur la table pour justement assurer des retraites décentes pour les retraités actuels et les futurs retraités qui vont être 30% de plus en quelques années.
On va venir.
Et voilà, le point d'équilibre, il peut être que là.
On va y venir aux propositions de la CGT, mais est-ce que tout est à jeter dans ce projet ? Est-ce qu'il faut conserver, par exemple, les 42 régimes spéciaux ?
Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'aligner vers le haut. Ces régimes spéciaux ont une histoire. Et aujourd'hui, le gouvernement a essayé tout au long de cette campagne de les montrer du doigt en disant que c'est 1% de salariés qui mettent en péril le système actuel et que donc, en supprimant les régimes spéciaux, eh bien, les retraites vont augmenter pour tout le monde. Les gens ont fait leurs calculs.
Aligner vers le haut, pourquoi pas ? Connaissez-vous le montant moyen de la retraite d'un agent de la RATP ?
Mais, vous savez, les agents de la RATP, aujourd'hui, ils ont plusieurs statuts. Entre ceux qui rentrent après 35 ans qui n'ont pas droit au statut.
Les roulants et ceux qui sont dans les
ateliers. Les roulants, puis ceux qui rentrent après un certain âge.
Mais pour une carrière complète, savez-vous le montant moyen de...
Pour une carrière
Selon le Parisien et selon le Corps, c'est 3 700 € brut par mois.
Voilà, ça peut être autour de 3 200 € net pour quelqu'un qui a travaillé plus de 40 ans, qui a été dans un travail pénible. Je pense que conduire ou travailler la nuit, les week-ends à Paris avec la pollution, je pense que c'est pas quelque chose aujourd'hui de honteux lorsqu'on voit l'argent qui est donné aux actionnaires du CAC 40.
Mais pour quelqu'un qui est au régime général, c'est autour de 1 200 à 1 400 €. La différence est quand même énorme avec un départ à la retraite moyen de 63 ans pour quelqu'un qui est au régime général et de 56 ans pour quelqu'un qui est à la RATP.
Un sénateur aujourd'hui qui a 6 ans de mandat, il part avec 2 200 €. C'est scandaleux, ça. Là, oui, c'est scandaleux. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'un chauffeur de bus du Havre ou de Amiens qui part avec 1 400 €, moi-même, par exemple, vous voyez, j'ai 40 ans de service de fonctionnaire, je suis quand même catégorie B+, je vais partir avec 1 700 €. Mais si je partais avec la réforme Macron, comme ceux qui rentrent, par exemple, dans l'administration aujourd'hui, je ne partirais qu'avec 1 200 €. Vous voyez bien, bien que cette réforme, elle pénalise tout le monde. C'est bien pour
elle
cela.
Elle pénaliserait, parce qu'on n'en connaît pas encore tous les contours.
Bah, écoutez, je pense que s'il y a des gens qui se mettent en grève massivement, c'est qu'ils ont fait leurs calculs. Aussi bien les professeurs de mathématiques qui sont en grève. C'est simple, hein. Lorsque vous prenez la carrière complète et non pas les meilleures années, y compris les périodes où vous avez des faibles salaires, des périodes d'activité à temps partiel, etc., automatiquement, en plus, vous ne voulez pas augmenter les recettes, parce que le problème des retraites aujourd'hui, c'est que les recettes sont trop faibles. Les cadeaux qu'a fait Macron, il y a le chômage, il y a la fonction publique qui ne recrute plus. Donc voilà, après, effectivement, tout le monde sera perdant.
Vous aurez compris que je me fais aussi l'avocat du diable dans cette émission.
Je vous connais, Patrick, je vous connais.
Dans ce projet, il y a également l'instauration d'une retraite minimum de 1000 euros, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout le monde connaît autour de lui des gens, des commerçants notamment, ou des artisans qui touchent autour de 600-700 euros, alors que là, on aurait 1000 euros minimum.
C'est pas vrai, justement, c'est faux. 1000 euros minimum ne serait attribué, et encore, qu'à quelqu'un qui rentre aujourd'hui et qui aurait autour de 44-45 ans de travail, ce qui est difficile à atteindre aujourd'hui quand on voit qu'on rentre dans le travail de plus en plus tard. Alors que nous, on demande que les années d'études soient prises en compte pour la retraite. Nous, on a fait des simulations. Quelqu'un qui est au SMIG pendant 42 ans avec le système Macron, au lieu de partir avec 950 euros de retraite comme c'est aujourd'hui, il partirait avec moins de 700 euros de retraite. On a fait des simulations pour un fonctionnaire, une infirmière, avec un employé de bureau ou avec une caissière au SMIC. Tout le monde serait perdant. Et ça, les gens l'ont bien compris, et c'est bien pour cela que la mobilisation est importante et qu'il faut, pour sortir de l'impasse, il faut que le gouvernement reconnaisse que cette réforme que nous avons
eue... Des simulations qui ne sont pas forcément justes, c'est la CFDT qui le dit, parce qu'on n'a pas les contours, on n'a pas les paramètres de la loi.
Si, on les a. Le rapport Delevoye qui a été remis cet été...
C'est le rapport Delevoye, voilà. Édouard Philippe annoncera les mesures mercredi à midi.
On verra avec les mesures d'Édouard Philippe. Mais vous savez, en Allemagne, où cette réforme a été mise en place, le taux de remplacement est passé en quelques années de 70% à moins de 52%. Donc partout où le système par points, d'ailleurs, Monsieur Fillon, qui était expert en la matière, avait dit lui-même, vous savez, maintenant, si on veut baisser les retraites, c'est plus la peine de faire des réformes paramétriques, il faut faire une réforme systémique, justement, avec la retraite par points. Il suffira de jouer sur la valeur du point et personne ne s'apercevra, il n'y aura plus de mobilisation et on pourra faire baisser tranquillement le montant des retraites sans faire payer les patrons et les entreprises du CAC 40.
Philippe Martinez, le leader national de la CGT, a défendu ce dimanche le système actuel, selon lui, le meilleur du monde, mais pourtant, il est aussi, ce système, le fruit de plusieurs réformes, la réforme Balladur, la réforme Fillon, la réforme Hollande,
tout, voilà.
Que vous avez à chaque fois combattu.
Bien sûr,
c'est un peu
tout.
Contradictoire, non ?
Mais non, mais il reste. Bien sûr qu'il y aurait... Nous, par exemple, sur les meilleures années, on souhaiterait que dans le privé, on revienne aux 10 meilleures années, non pas aux 25 à cause de la réforme Balladur. On sait que c'est un régime de retraite qui s'est détérioré avec les attaques successives. Mais malgré tout, ce système par répartition, où les actifs cotisent, et le problème aussi aujourd'hui, s'il y a un léger déficit, c'est parce que justement beaucoup de salaires ont été encouragés, d'indemnités ont été encouragées par le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de cotisation sociale dessus. Et ça fait que bien sûr, les recettes pour financer les retraites s'amenuisent, et c'est là qu'il y a un problème. Mais il suffirait de remettre dans la cotisation l'ensemble des salaires, que ce soit des primes, que ce soit des dividendes, que ce soit tout ce qui est issu du travail pour que le régime puisse fonctionner et qu'on ne soit pas obligé de travailler jusqu'à la mort, parce que la retraite par points, c'est la retraite en moins.
Vous l'avez évoqué, selon le comité d'orientation des retraites, le déficit du système actuel pourrait atteindre de 7 à 18 milliards. La fourchette est large, on le remarquera, d'ici quelques années. Que propose la CGT pour le sauver, ce système?
Justement, si on lit le rapport du COR, il dit quoi le rapport du COR? Le problème, il ne vient pas du nombre de retraités importants, il vient des recettes qui s'affaiblissent, avec notamment des salaires des femmes qui sont très faibles, avec une précarité qui augmente, avec des cotisations qui diminuent, qui sont supprimées pour beaucoup de versements de salaires. Donc c'est une question de recettes. Le gouvernement est premier responsable, puisque en n'augmentant pas le point d'indice des fonctionnaires depuis 8 ans, il a contribué justement à créer ce déficit.
Et donc, on agit également sur le chômage. C'est une des revendications de la CGT, mais
oui.
on peut passer...
5 millions de chômeurs, vous mettez 4 millions de gens au travail avec des cotisations, ça permettrait déjà aux gens qui ont 60 ans de partir à la retraite, de se reposer, ou même de former des jeunes dans leur travail avant de partir, et on trouverait un cercle virtueux pour assurer notre régime des retraites pour les années qui viennent.
Donc, nouvelle journée de mobilisation demain, Jean-Pierre Battestini.
Oui, la justice demain à 10h à Bastia, notamment.
La CGT est toujours aussi déterminée, on l'a bien compris.
Plus que jamais.
On referme cette page consacrée à la réforme des retraites.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Et on s'intéresse à présent, Jean-Pierre Battestini, à votre parcours, à l'évolution du syndicalisme ces dernières années. Vous avez aujourd'hui, Jean-Pierre Battestini, 60 ans. Vous êtes entré aux impôts en 1981 à Paris. Vous adhérez dans la foulée à la CGT. Puis en 1984, vous arrivez à Bastia, toujours aux impôts, et vous gravissez les échelons professionnels et syndicaux. Et donc, après 40 années, à la fin du mois, vous allez rendre votre tablier syndical, en tout cas au niveau de la section départementale. Pourquoi cette décision, Jean-Pierre Battestini, vous auriez pu continuer encore un an ?
Oui, bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, 40 ans de militantisme, 35 ans en tant que dirigeant de premier plan au niveau de l'Union départementale, la commission exécutive, et 15 ans en tant que premier secrétaire général. Donc je pense qu'il était temps aujourd'hui, pour diverses raisons, y compris même des raisons de santé.
Certaines lassitudes, voire une fatigue.
Oui, j'avoue, une certaine usure. Hein. Et puis peut-être aussi, j'ai traversé le siècle, j'ai fait des combats magnifiques. D'autres, bien sûr, on n'a pas toujours gagné, mais bon, je me souviens du conflit de 1989.
L'apothéose, ça a été 89.
89, 95. C'est vrai que ça a été des moments
mais
de
89,
joie.
89, c'était particulier à la Corse. 95, c'était au niveau national.
Ah non, je parle de 95. On en a fait deux en 95. On a fait celui justement, le local.
Contre la réforme Juppé déjà.
Ça, c'était à la fin,
à la 95.
Mais au printemps 95, avec notamment les finances, on était partis les premiers.
Oublié.
Voilà, on avait obtenu la fameuse zone zéro.
Hein. Ah, d'accord.
Et donc, c'était encore un conflit victorieux. Et voilà, mais en même temps, bien sûr, 40 ans de militantisme ne se résume pas à ces conflits victorieux. Il y a aussi un quotidien exaltant. On rencontre des gens merveilleux. Je vais quand même dire deux mots sur des camarades que j'ai côtoyés pendant cette période. Bon, je vais en oublier certains, mais je pense à Jean Bruel et Jean-Claude Graziane, avec qui on a fait le conflit 89, à Francis Riolacci et à Louise Antonelli, à Nanou Mandry, qui était aussi secrétaire. Voilà, c'était des hommes et des femmes merveilleux qui m'ont beaucoup appris, qui sont attachants et qui continuent à militer. Et voilà, c'est grâce à eux aussi que j'ai pu aussi avoir cette foi, avoir cette volonté de lutter pour la justice sociale.
Durant ces années, il y a eu aussi des points négatifs, notamment en Corse, hein, où la CGT a été devancée par le STC, et puis plus récemment au niveau national par la CFDT, après avoir été longtemps le premier syndicat de France, hein, la CGT ne l'est plus. Comment avez-vous encaissé ces deux revers successifs, et surtout, comment les expliquez-vous ?
Écoutez, c'est dommage, parce qu'on voit bien que lorsque la CGT est premier syndicat, et on le voit pour la mobilisation que l'on a vu encore jeudi dernier, c'est quand même un moteur extraordinaire qui donne confiance aux gens.
Qui
arrache des succès. Oui, bon, 89, ils étaient plutôt contre nous, mais enfin bon, voilà.
Là, ils y étaient.
Là, ils y étaient, et je m'en félicite. D'ailleurs, l'unité syndicale, la CGT, remarquez que lorsqu'il y a un syndicat dans la rue, s'il n'y en a qu'un, c'est la CGT. Donc, on y est toujours, parce qu'on sait que l'unité syndicale est nécessaire, hein, et si on veut, notamment en Corse, quand on voit les dérives qu'il y a dans notre société, sur la précarité, sur la vie chère, sur la mafia aussi, il y a besoin aussi que les syndicats s'unissent pour donner un peu de force aux salariés qui relèvent la tête.
Comment expliquer cette perte de vitesse par rapport au STC ? Vous et la CGT, vous avez eu toujours des positions très républicaines. D'ailleurs, dans un portrait que vous avez consacré à Libé en 1998, vous vous définissiez comme un agent de la République. Est-ce que ça a joué contre vous ?
Peut-être, à un certain moment, avec des idées à la mode, comme quoi l'indépendance, les compétences dévolues au plus bas niveau, aller régler les problèmes. On s'aperçoit aujourd'hui, quand on regarde la Corse, que ce soit sur les déchets, sur les transports, sur le carburant, sur la précarité, que les garanties nationales.
Vous n'étiez pas dans le courant.
Peut-être qu'à un moment donné, on était à contre-courant, mais nos valeurs, aujourd'hui, malheureusement, elles sont des fois à contre-courant. Il y a qu'à voir la gauche au niveau national comme au niveau régional.
La concertation, vous avez toujours été contre.
Toujours été contre, contre la préférence nationale. On a été contre la concertation, on est contre le statut de résident, on est contre ce qui divise les salariés et qui ne donne pas des perspectives de solutions. Aujourd'hui, la Corse, si elle souffre du chômage, ce n'est pas la faute à l'immigré, ce n'est pas la faute au continental. Si aujourd'hui, c'est difficile d'acquérir un logement en Corse, voilà, il faut que les collectivités fassent des PLU avec des priorités pour les primo-accédants et pour les résidences principales. Tout ça, c'est faisable. Et pas de jeter à la vindicte ou les étrangers ou le Marseillais. Tout cela, on voit bien que ça ne sert que le patronat et ça ne sert pas l'intérêt des salariés.
Au plan national, en revanche, c'est la CFDT réformiste. On le voit encore avec l'actuelle réforme de la retraite qui est passée devant. On a le sentiment, en effet, que la CGT, quel que soit le gouvernement, de droite ou de gauche, que la CGT est toujours contre.
CGT est toujours contre, ça dépend de ce qu'on propose. Quand on a voté la sécurité sociale en 1945, c'est la CGT qui l'a créée.
Ça remonte à loin, hein, oui, vous connaissez-le.
Je veux dire, le statut des fonctionnaires en
1947. Mais depuis les années 80, c'est un syndicalisme défensif uniquement.
Est-ce qu'on a, en 89, on s'est battu, et en 95, on a obtenu la prime de transport pour des dizaines de milliers de salariés en Corse. En 2009, c'est la CGT qui a été à l'initiative d'une plateforme intersyndicale pour la prime de trajet pour les salariés du privé de 200 euros. Donc, on propose également. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'Europe libérale, la mondialisation libérale, les idées de gauche, de progrès social sont malheureusement en recul et on a des perspectives plus sombre, que ce soit au niveau, bien sûr, la montée du religieux, l'islamisme, la montée du racisme
y compris dans les entreprises
où, notamment
les syndicats sont supplantés.
Avec la loi Macron, aujourd'hui, il y a moitié moins d'élus du personnel qu'il y a 5 ans.
Et seulement 8% de syndiqués en France.
8% de syndiqués, mais quand on vote, les gens votent à 80%, c'est-à-dire qu'on a, nous, rien qu'à la CGT, on a plus d'adhérents que tous les partis politiques réunis au plan national. Quoi qu'il en soit, il faut aussi qu'on fasse nos critiques, il faut qu'on soit plus proche des gens, parce qu'aujourd'hui...
C'est ce qui explique qu'il y a un an, vous avez été supplanté dans la contestation par les Gilets jaunes.
Oui, par exemple, mais bon, aujourd'hui on voit bien que les gens ont besoin d'un syndicat. Moi, le sentiment que j'ai au bout de 40 ans, c'est que j'ai été utile aux salariés, que la CGT est utile. On voit maintenant, par exemple, on organise nos syndicats dans les services à la personne parce qu'ils sont un petit peu perdus. On crée des collectifs dans le commerce. On voit qu'il faut qu'on soit plus proche. D'abord, j'ai discuté avec Philippe Martinez pas plus tard que la semaine dernière. Et lui aussi me dit, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui donner plus de moyens dans les territoires. C'est là qu'il y a des enjeux importants d'organisation et de pouvoir et de contre-pouvoir.
Comment se fait-il, Jean-Pierre Battestine, que toute cette contestation sociale, ce bouillonnement actuel, ne profite pas à la gauche, ni aux socialistes, ni à la France insoumise, et encore moins aux communistes ?
Aujourd'hui, c'est vrai que l'individualisme, le fait que le libéralisme a coupé des solidarités où les gens se sentent de plus en plus seuls. Ils cherchent une solution individuelle. D'ailleurs, il y a même des éditorialistes à la télévision qui ont des propos surréalistes. Je crois que c'est Madame Graziane, je ne sais pas si elle est corse, Julie Graziane, qui disait à une femme que si elle avait que 1200 euros, c'est parce qu'elle avait mal travaillé à l'école et qu'en plus, si elle était seule avec deux enfants, c'est parce qu'elle n'avait pas besoin de divorcer. Vous vous rendez compte de ce genre d'arguments aujourd'hui qui sont banalisés dans les médias, qui font que...
Elle a été démissionnée. Hein,
tant mieux. Ça ne sera pas une grosse perte. Entre elle et Zemmour, on est gâtés. Hein.
Jean-Pierre Battestine, le premier parti ouvrier aujourd'hui est le Rassemblement National. Ça vous inspire quoi ? Que dites-vous aux ouvriers qui votent Marine Le Pen ?
Qu'ils se trompent, que l'extrême droite a toujours été contre le mouvement ouvrier. Pas plus tard que le mouvement en 2003, Marine Le Pen demandait à ce qu'on envoie l'armée et les chars contre les grévistes. Bien sûr, c'est du populisme, ils essayent de récupérer, mais il n'y a aucune proposition concrète pour améliorer la vie des salariés, malheureusement. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils proposent, ce n'est pas crédible. Ils proposent que le salaire brut devienne le salaire net, que chacun puisse faire sa retraite de manière individuelle. On voit bien que c'est à l'opposé de ce qu'ont besoin les salariés aujourd'hui.
Dernière question avant de nous quitter, Jean-Pierre Battestine. Est-ce qu'un successeur a été désigné
en Haute-Corse ? On y travaille. Donc en 2020, il y aura un bureau transitoire qui prendra les rênes de l'union départementale. Philippe Martinez et le bureau confédéral, on verra une délégation au mois de janvier où on va mettre tout cela au clair, voir avec les droits syndicaux comment restructurer et moderniser, parce que mon départ aussi doit signifier aussi un changement, parce que
mais c'est pour vrai l'instant, il n'y a pas encore de nom qui se dégage.
Il y a quelques noms, mais bon, je ne pourrais pas vous les donner aujourd'hui, mais croyez-moi, la CGT va continuer sans moi, et j'espère encore mieux qu'avec moi.
Le mégaphone ne vous manquera pas?
Bah écoutez, je ne pense pas, parce que vous savez, j'ai 61 ans bientôt, et je suis curieux de tout, je vais continuer à vivre et à regarder bien sûr le mouvement social et y participer, mais à la place qui sera la mienne, donc en simple syndiqué.
Bonne continuation et bon vent, Jean-Pierre Battestine. Merci d'avoir été notre invité.